Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 95. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mon collègue.
Rémi Fréchette. Pascal, Pascal, où es-tu, Pascal?
Oui, c'est ça, Pascal n'est pas des nôtres, on va expliquer ça. Et cette semaine, on a aussi la chance d'avoir un invité, notre collaborateur Olivier Bouchard. Olivier, bonjour.
Hello.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avant qu'on commence le podcast, juste que je vais apporter quelques précisions. Donc, de un, ben, Pascal fait un espèce de petit tour du monde en ce moment. Un petit tour d'Europe. En gros, ben, on le sait qu'il est allé à la première mondiale à Vision du réel, le festival suisse, pour le documentaire Masse Mystique de Karim Haroun, auquel il a participé. On en a déjà parlé un peu. Et aussi, il passe par Cannes, notamment. C'est quoi déjà, Rémi? C'est Baby Blues qui est au Short Film Corner,
Oui,
c'est ça?
exactement, ouais. Donc le film qu'il avait fait avec Chloé Bourgeois, c'est un film d'une vingtaine de minutes sur une mère monoparentale qui laisse ses enfants à la maison pour aller à une date. And everything goes wrong, bien sûr, là. Fait que voilà, ouais, c'est ça qu'il présente au Short Film Corner.
C'est drôle parce que ça, c'est le cas d'un film que il a déjà passé dans quelques festivals à Montréal et qui là se retrouve au marché du court-métrage à Cannes. Donc c'est comme l'inverse un peu d'habitude. Les films de Cannes qui arrivent comme un an plus tard au Québec. Donc ça qu'on voulait dire. Alors Pascal n'est pas des nôtres cette semaine et évidemment on a bien hâte de le retrouver et j'espère. En tout cas, moi je lui souhaite s'il peut voir quelques films à Cannes. Hein, c'est toujours le meilleur temps pour les voir un peu. Avant aussi tout le buzz puis les oui-dire puis les rumeurs, parce que des fois aussi ça peut-être gâcher l'expérience quand on a des mois et des mois de recevoir les opinions de tout le monde avant d'enfin se faire son propre avis. C'est le fun des fois d'être vraiment à chaud dans des films, mais évidemment je veux dire Cannes apporte aussi son lot d'attentes, donc c'est pas non plus vrai que on est vierge lorsqu'on va voir un film à Cannes non plus. Donc ça, autre chose, on a pris une petite pause du podcast, une question de temps finalement. Tu sais,
On
nous on
s'est
fait
pas chicané, là. Il s'est rien passé de néfaste
Non,
là-dedans, là.
non, c'est ça. Mais c'est ça. En gros, c'est aussi pas mal à cause de moi, là, mais c'est juste bon, les études, je suis en fin de session, tout ça. Et on essaye de revoir un peu la formule du podcast. On va fort probablement passer à une formule bi-hebdomadaire, dans le fond, bimensuelle. C'est quoi qu'il faut dire? Bimensuelle, 2 fois par mois.
Bimensuel, ouais.
Donc, aux 2 semaines, aux 15 jours. Pourquoi? Question de temps. Et puis c'est ça, pour ceux qui le savent pas, moi je suis au deuxième cycle à la maîtrise et puis ça demande beaucoup de temps. Alors c'est un peu une façon de revoir peut-être la formule du podcast aussi. Et du coup on n'est plus associé avec Choc, mais je souhaite quand même personnellement hein, les remercier chaleureusement et de tout leur appui, leur support et leur confiance surtout. Qui sont venus nous chercher pour ça. Donc, on a fait une saison avec eux, on est très contents. Et qui sait si dans le futur on n'a pas une nouvelle collaboration qui nous attend avec Choc. Donc voilà, ça c'est dit. Et aussi bientôt bon, si on y va aux 2 semaines, vers la fin de l'été ou du moins l'été bien avancé, on va accrocher notre 100e épisode. Alors, on va peut-être préparer quelque chose pour l'occasion. C'est pas encore sûr. C'est un peu nébuleux dans ma tête ce que j'ai goût de faire, ce qu'on a le goût de faire. Fait qu'on va en discuter entre nous.
Ça prend quelque chose d'épique quand même. Le centième, c'est ça se célèbre.
Ouais, faudrait quand même marquer le coup, là. Ça serait un peu ridicule de faire un épisode régulier.
On pourrait
Mais,
inviter Paul Arcand, puis avoir une discussion d'une heure avec Paul Arcand, ce serait super.
Ouais, s'il accepte l'invitation, on verra. En tout cas, s'il y a des auditeurs hein, qui nous écoutent et qui ont des idées comme ça, n'hésitez pas. Il y a déjà quelqu'un qui a marqué sur notre page Facebook qu'on devrait faire tirer des Blu-ray de Criterion. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça avoir le budget ou la commandite pour ça, mais Criterion, le problème aussi, c'est que c'est pas nécessairement, ils sont pas tous distribués au Québec. Et c'est pas comme si c'était, ça serait déjà plus réaliste de peut-être faire tirer les DVD de un distributeur québécois, admettons. Donc voilà, alors mais quand même, hein, je suis très content que les gens nous pitchent des idées comme ça. Ça nous fait réfléchir. Autre chose que je voudrais dire, juste c'est un peu comme les annonces officielles, si on veut. Mais moi, je viens de finir. Hier, c'était la fin du à l'heure où on enregistre. Donc on est dimanche. Et vendredi, samedi, c'était le 41e Festival de films de Concordia. Donc une belle édition. C'était vraiment le fun. J'ai pas vraiment pu en profiter cette année vu que je travaillais du côté de l'Impérial, mais c'est le fun comme de voir à chaque année, c'est vraiment les visages changent et puis moi c'était donc ma 4e année que j'étais associé au festival et puis cette année j'ai vraiment l'impression que bon c'est ça, j'étudie plus à Concordia, donc j'ai l'impression que je connais presque plus personne, mais il y a encore des gens que je rencontre, que je connais, dans le fond. Et notamment, j'ai rencontré Simon Allard et Colin Rascot. Et je voulais les mentionner parce que, ben, Colin, il n'y a pas rapport avec ça, mais Simon Allard, qui travaille pour Cineground, qui viennent tout juste de publier, en fait, ça fait un projet, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, c'est The Akira Project. Et c'est une bande-annonce, en fait, en live action, donc avec des acteurs, de ce que pourrait donner une adaptation de Akira. Est-ce que vous l'avez vu, cette bande-annonce-là? Je l'ai mis
Oui.
sur la page Facebook. T'as-tu vu ça, Olivier, aussi?
Non, j'ai pas vu. J'ai vu que tu l'avais posté, mais j'ai pas vu.
Ouais. Et puis, méchant gros travail. On parle d'un budget qui a été en partie financé par Indiegogo, mais tu sais, le résultat que ça donne, tu sais, c'est un gros 4 minutes avec beaucoup d'effets spéciaux. Puis on en parlait justement avec ça de la logistique avec Simon. Il me racontait que le tournage s'est effectué donc à l'automne 2012 pour la plupart des plans. Et ensuite, c'est un an et demi de post-production avec des artistes d'effets visuels de comme 5 pays différents.
Ouais, puis c'est ça, ils sont allés vraiment chercher la communauté de fans sur Internet pour essayer de construire quelque chose, là.
Ouais.
Mais je pense que le tournage, ça a quand même été long aussi. C'était comme un 5-6 jours pour une bande-annonce de quoi, de 4 minutes environ, là.
Ouais.
Donc ouais, ça a été très très épique, mais je pense que le résultat est là. C'est fou ce qu'ils ont réussi à faire avec justement juste l'appui des fans puis de la communauté Internet.
Non, non, c'est vraiment impressionnant. Et pour tous ceux qui sont fans d'Akira, on vous recommande de voir ça. C'est vraiment bluffant. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que tu sais, ça fait des années, mettons, que c'est en rumeur qu'il y a une adaptation justement d'Hollywood.
Avec Keanu Reeves pendant un bout, hein, c'était lui qui était attaché au projet, là. Très
Ouais,
étrangement, là.
il y a aussi eu beaucoup de rumeurs sur Joseph Gordon-Levitt pour jouer Tetsuo. Donc, on va voir si jamais ça voit le jour, mais la bande-annonce, sérieusement, c'est quand même assez solide. Je suis un peu déçu par contre parce que c'est comme en anglais, alors que j'aurais mis ça en japonais, mais bon, ça c'est juste un détail, c'est juste bizarre de voir à quel point c'est tellement fidèle, tu sais, pour tout le reste, la moto, les costumes, ils sont allés chercher des
Ben,
acteurs
les acteurs sont
asiatiques.
asiatiques, c'est ça, au moins.
Ouais,
Au moins, c'est ça, là. Mais
mais.
sûrement qu'ils se disaient qu'ils recherchaient beaucoup plus de monde avec en le faisant en anglais, justement, aller chercher le public anglophone, là.
Ouais, mais c'est qui le public, tu sais, qui a écouté
Trip
Akira
sur
puis qui
Akira,
connaît
ouais,
Akira, tu
certainement,
sais,
là.
c'est du monde quand même qui sont ouverts et j'imagine à des films sous-titrés là. Quoique Akira, j'imagine, il y a sûrement un DVD qui existe avec un doublage anglais là.
Mais les Américains aiment
Mais
pas ça lire des films, ils le disent souvent. Ils aiment pas ça
ouais,
lire des films.
mais c'est une bande-annonce, tu sais, il y a à peu près genre 4 phrases dans la bande-annonce. Donc en tout cas, donc
Tetsuo!
ouais. Puis vraiment la shot finale là qui reprennent un peu l'image iconique là de la bombe atomique puis le gros cercle noir là, ça c'est vraiment réussi je
C'est
trouve le
très beau, hein.
dernier plan. Donc bref, félicitations à vous hein, Cineground et la vidéo est déjà sur notre page Facebook, on vous invite à aller voir ça et à partager. Maintenant, on a aussi publié hein, grâce à toute l'équipe de Point de vue, tous nos collaborateurs, un petit guide des films de l'été sur notre page. Donc si vous n'avez pas été lire ça, vous pouvez déjà vous diriger là-dessus, et il y a déjà un film qui est sorti, entre autres, de ce guide. En fait, chacun devait nommer son film le plus attendu de l'été, sachant que c'est un peu futile hein, comme choix, que c'est très arbitraire, et la seule contrainte, c'était qu'il fallait qu'il y ait une date de sortie confirmée au Québec cet été. Et toi, Olivier, t'avais choisi Under the Skin, qui est donc sorti la semaine passée, et que tu... en fin de semaine, et que tu as eu la chance de voir depuis. Donc... Tu l'attendais comme ton film de l'été, donc forcément c'était un film très attendu. Est-ce que le film a un peu comblé tes attentes?
Combler mes attentes, je sais pas, c'est tellement bizarre. Je l'ai vu hier en fait, puis je sais pas si j'ai encore complètement assimilé comme film. J'ai des critiques envers le film, mais je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai mal compris un truc ou quelque chose en fait.
Ben, c'est un trip visuel de base. Moi, je l'ai pas vu encore, là, mais on s'entend que le réalisateur, il a fait beaucoup, beaucoup de vidéoclips. Il est très reconnu pour ça. Puis il a fait comme juste un long métrage à date qui était Sexy Beast, qui était vraiment excellent, là.
Il a fait Bird avec Nicole
Ah,
Kidman.
ok.
Fait qu'il a
Celui-là, j'ai
fait
pas
deux films
vu.
avant. Ouais, j'ai vu Bird, j'ai pas vu Sexy Beast en fait. Pour la petite histoire, en fait, Under the Skin raconte l'histoire d'une alien qui bouffe des humains. Puis ça sonne comme une espèce de principe de série B un peu débile. Mais donc l'alien est interprétée par Scarlett Johansson et joue une espèce de séductrice qui va ramener les humains chez elle et puis elle va les bouffer là. Mais en fait, la prémisse de série B puis de film d'horreur est utilisée pour faire un film expérimental, mais qui est quand même ancré dans le cinéma d'horreur. Puis moi, je suis une personne complètement stressée. Puis le cinéma d'horreur, au cinéma, ça me rend complètement fou, là. Genre, voir un film d'horreur sur grand écran, ça me stresse complètement. Et ce film-là me stressait tout le long, là. Genre, ça me faisait peur profondément, là. Il y a vraiment des scènes troublantes. Puis en gros, à partir de la prémisse justement de l'extraterrestre, ce que Glazer fait, c'est qu'il permet de voir notre propre, ben, les humains comme l'extraterrestre, en fait, comme les objets bizarres. Elle va tout le temps les observer, puis les trouver spéciaux, puis les trouver bizarres dans leur façon d'agir, puis elle va être enfermée dans sa petite voiture, puis le montage sonore, il est pour beaucoup, en fait, on va déformer, justement, vu qu'elle va être enfermée dans sa petite voiture, ça va être l'écho des voix à l'extérieur, puis tout ça, puis ça fait paraître le monde humain, la race humaine, vraiment comme une race extraterrestre, puis ça, je trouve ça vraiment génial. Ma petite réserve, par contre, c'est qu'en deuxième partie du film, on dirait qu'il tombe plus dans le narratif. Puis je pense que ça réussit moins, mais j'ai peut-être moins compris certains des éléments qu'il rajoutait en fin de parcours, en fait.
OK. Et ce que j'ai entendu dire beaucoup, c'est que Scarlett Johansson se donne à fond dans le rôle, que c'est vraiment une grande performance. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ouais, ben c'est facilement son meilleur rôle que j'ai vu depuis longtemps, même probablement un de ses meilleurs rôles à vie. C'était vraiment un rôle particulier, en fait, parce qu'elle interagit beaucoup avec des non-acteurs. En fait, des gens qui étaient dans la rue, dans le fond, qui ont pris au hasard ou qui savaient même pas qu'ils étaient tournés. Même à ce point qu'il y a une scène où qu'elle tombe à s'enfarge pendant qu'elle est dans la rue, puis il y a du monde qui vient de l'aider, puis tout. Puis cette scène-là avait été reprise par les tabloïds, en fait, puis ils pensaient que c'était Scarlett Johansson qui s'était pété la gueule au hasard, mais dans le fond, elle était en train de tourner le film. Et...
Ah oui, je me souviens de
Ouais,
cette
ben c'est assez
nouvelle-là.
impressionnant. Hein?
Je me souviens de
Pardon?
cette nouvelle-là, c'est vraiment drôle, ça.
Ouais, puis c'est ça faisait partie du tournage du film. C'est un peu cet effet-là, une version, disons, expérimentale de Borat, où tu te demandes si ça a été tourné avec des vrais acteurs ou des faux acteurs, si je peux dire, parce qu'il y a des scènes où elle va vraiment loin avec d'autres personnes, puis bon, à un moment donné, tu finis par comprendre que c'est des vrais acteurs ou non, mais pendant un bon moment, le film joue sur cette idée-là, que tu sais pas si les autres personnes sont impliquées ou non dans le tournage du film. Puis Scarlett Johansson, au final, fait de l'impro, puis est vraiment solide dans plusieurs de ces scènes-là. Je pense que c'est vraiment une performance impressionnante, ouais.
Et le passé de réalisateur de vidéoclip de Jonathan Glazer, est-ce que tu penses que ça lui apporte beaucoup dans ce film? Est-ce que il y a des choses que tu as remarquées que tu t'es dit, ah ben oui, ça fait du sens?
Ben, c'est super esthète, design, si je peux dire, là. Il va avoir des plans où que tout le décor est complètement noir, qu'on voit juste les personnages, tout le décor est complètement blanc, on voit juste les personnages, puis ça a vraiment ce caractère-là, vidéoclip, mais je pense qu'il en met pas beaucoup, il en met pas trop, en fait, ça agace pas, puis justement, dans son thème Alien, ben, voyons, ça renforce le thème.
C'est intéressant. Faudrait faire d'ailleurs, il y a sûrement un livre là, qui devrait se faire sur tous les cinéastes venant de la génération des vidéoclips. Tu sais, les
Ouais. Il y a
Michel
des collections
Gondry, David
DVD, en fait.
Fincher.
Il y a des Essential Collection, c'est des box-sets DVD sur ces réalisateurs-là, mais avec des espèces de documentaires, il y a un gros livret dedans, là. C'est des box-sets comme de deux DVD. Puis justement, Glazer, il est là, Michel Gondry, puis Cunningham aussi. Ils ont chacun leur DVD dans cette collection-là.
Ah, c'est intéressant. Donc, ben voilà. Alors, pour toi, Rémi, c'était le personnage, le Snowpiercer de Bong Joon-ho, qui arrive
Oui.
quelque part en juillet, je pense.
Oui, exactement. Ben, en fait, moi, c'était vraiment un. Je pense que pour moi, c'était assez évident que c'est ça, là, que ça allait être ça, même s'il est déjà sorti en 2013, officiellement dans les festivals. Il n'était pas encore arrivé au Québec, puis moi, je l'ai manqué dans les festivals. Puis, ben, pour moi, c'est un réalisateur qui a pas de faute d'erreur de parcours à date. Même ses films mineurs comme Barking Dogs Never Bite, c'est des films qui sont super intéressants. Puis, c'est toujours des espèces de twists dans le genre, là. Puis là, c'est une première production, collaboration avec les États-Unis. Je te dirais que ce qui me repousse un peu, ça a l'air d'être l'espèce de métaphore trop grosse dans le scénario qui transparaît beaucoup dans la bande-annonce, qui me fait penser un peu à Elysium, l'espèce de
Ouais.
non-subtilité du scénario. Mais en même temps, je me dis que, bon,
Sur les différentes classes sociales, là.
Ouais, exactement. La division des classes sociales, les riches, les pauvres sont dans des wagons différents, puis ça a l'air tellement gros et dans ta face,
Mais en même temps, dans la vraie vie, je veux dire, il y a des, tu sais, il y a la première classe, il y a la classe
Oui, certainement, là,
économique, puis.
certainement, mais tu sais, bon, c'est moi, c'est un peu ça qui me turn off dans la bande-annonce. Mais reste que Bong Joon-ho, c'est, je pense que c'est vraiment un réalisateur à suivre, là. C'est, pour ceux qui connaissent moins, il a fait les films de Host, un film de monstres géants coréens, qui est vraiment, en fait, c'est toujours des twists sur le genre, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir la formule qui est là, mais il va toujours aller au-delà avec des personnages vraiment intéressants. Il y a toujours aussi des personnages qui reviennent un peu dans ses films. Il y a toujours un ego dans tous ses films. Mais son dernier, qui était Mother, qui était vraiment, vraiment incroyable. Moi, j'avais beaucoup aimé ça, qui était un twist sur le thriller, dans le fond, une mère qui essaie de prouver que son fils est innocent dans un crime. Puis sinon, il en a fait un. Ah, il a fait Memories of Murder, qui est un vrai film policier, basé sur un des faits vécus. Ces quatre films-là sont vraiment spectaculaires. Il a fait un segment aussi dans Tokyo. Je pense que ça résume pas mal sa filmographie, à ma connaissance. Fait que, ouais, voilà, le voir avec des acteurs américains, le voir avec un gros budget aussi. Des fois, c'est intéressant de voir un réalisateur qui faisait avec des petits moyens, qui maintenant a accès à un gros budget. Qu'est-ce qu'il va faire de nouveau? Où est-ce qu'il va se permettre de justement dépenser son cash, entre guillemets, là, pour que son film soit ce qu'il veut, là. C'est comme un Darren Aronofsky qui a le budget de faire un film sur Noah. Je l'ai pas encore vu, mais bon, Paul, toi, t'as été all-in, là.
Ouais, mais en même temps, The Host, je pense, c'est un film quand même à grand spectacle.
Ouais, mais c'est un budget en même temps qui est. Ouais. Mais c'est un budget qui est coréen d'après moi, là. Je pense qu'il y a rien qui égalise les budgets aux États-Unis, là. Faudrait que je regarde en même temps, là. Je dis ça un peu à tout hasard comme ça, là. Mais avec un budget américain, puis les acteurs qui ont réussi à avoir. Il y a encore Tilda Swinton qui a une espèce de rôle vraiment décalé, hyper mécopé, puis. Déjà, juste ce personnage-là m'intéresse vraiment beaucoup, là. Tu viens de la voir, tu sais, dans Grand Budapest Hotel, où elle est complètement maquillée, on la reconnaît pas du tout, puis là, elle prend encore un rôle edgy, elle prend encore un truc qui sort de l'ordinaire. Fait que,
Un
ouais, c'est...
espèce de vampire bohème albinos dans
Ouais.
Lovers
Elle se garde, je pense, dans ses rôles, là. Je pense qu'elle se fait beaucoup de plaisir avec ça, fait que...
Left
Mais
Alive. Ouais.
voilà,
C'est un
moi,
peu
c'est...
la. Elle me fait penser à. C'est quoi son nom déjà? Gary Oldman?
Ah, Gary Oldman, ok, ouais.
Ouais, qui est souvent méconnaissable. T'sais, elle me fait penser un peu à lui en version féminine, là. Mais bref. Mais c'est un peu une femme aussi, je trouve, sans âge, dans un sens. Tu sais, c'est quoi son casting d'âge? Tu
C'est
sais,
vrai.
c'est entre 30 et 40 ans, c'est un peu dur à vraiment définir, tu sais. Mais bon. Ouais, donc le personnage, moi aussi j'ai bien hâte de voir ça à la tête d'une bande dessinée française. Et c'est déjà un succès dans le monde, hein, parce que... Comment?
Toi, ton film, c'était Godzilla.
Ouais, mon film Godzilla qui sort ce vendredi. Deuxième film seulement de Gareth Edwards, dont je n'ai pas vu le premier film qui s'appelle Monsters, qui a eu des quand même bonnes critiques à l'époque.
C'est quand même une bonne suite dans sa filmographie de suivre avec ça, là. Mais Monster,
Ouais.
si je me trompe pas, c'était le film qui avait été fait sur un laptop. C'est comme un peu la légende autour de ce film-là. C'était que c'est un film de monstre géant, mais qui a été fait vraiment sur After Effects avec des effets spéciaux maison, mais qui a l'air d'un film hollywoodien, là. Il a vraiment fait tout ça lui-même. C'était sur un budget, là, qui... Ouais, c'est ça. Ben, c'est un film très très d'ambiance, je pense, là, il avait vraiment fait ça à micro, micro, micro budget, là.
Toi, tu l'as vu, Olivier, son premier film?
Ouais, je l'ai vu, puis ça donne plus l'impression qu'il s'est présenté comme réalisateur capable justement de bosser avec des effets spéciaux et tout ça, sans que Monster soit vraiment un très bon film, à mon sens, là. Mais c'est ça, mais il montrait qu'il avait du talent à dealer avec ça, puis comme Rémi dit, il avait fait des effets spéciaux avec à peu près rien sur son petit laptop, puis c'était vraiment impressionnant pour ça, mais le film en soi est un peu, est plutôt moyen.
Donc, résultant de ça, il se fait offrir comme 150 millions de dollars pour, pour réinventer la franchise Godzilla, qu'on le sait, a été un peu malmenée par Roland Emmerich en 98, je crois, ou
Qui a
97.
été renié en fait par les Japonais, hein. C'est
Ouais.
dans le film Godzilla 2000, le Godzilla américain se fait planter par le réel Godzilla. Les Japonais voulaient montrer que ce n'était pas le vrai Godzilla qui était dans le film américain, que c'était. Ils ont donné un autre nom, en fait. Je me souviens pas du nom, là, mais dans la mythologie, c'est vraiment une autre créature qui s'est fait prendre par. pour Godzilla par les Américains. Quand cette créature-là a fait son chemin vers le Japon, elle s'est faite planter d'aplomb par le réel
Ouais.
Gojira.
En même temps, je crois que tu sais, ça sera toujours le cas. Puis même avec celui-là, j'ai l'impression que la réception au Japon sera pas nécessairement bonne parce que tu sais, c'est un peu une icône nationale. Puis tu sais, c'est un peu comme si, je sais pas moi, au Québec, on voulait réaliser tu sais, un western ou un James Bond. Tu sais,
Mais
ou
pourquoi
tu sais,
pas?
le
Pourquoi pas?
Japon. Le... Ben non, mais je veux dire, tu sais, je comprends le réflexe un peu de défense là.
Mais le mood de ce nouveau Godzilla-là, d'après moi, est beaucoup plus. Il ressemble beaucoup plus à ce que c'est vraiment Godzilla au Japon, là. Je veux dire, juste avec la bande-annonce, on le voit que c'est. On vient vraiment dans le contexte du premier, parce qu'il y a eu plusieurs époques dans les films de Godzilla. Il y a eu justement une transition à un moment donné où c'est devenu vraiment pour enfants. À un moment donné, c'est devenu des espèces de gros films d'action avec des lasers, là, puis futuristes, Japan Weird Shit, là. Mais tu sais, originalement, le premier Godzilla, ça a l'air d'être vraiment dans le mood de celui qu'on va avoir là, présentement aux États-Unis. C'est vraiment un film plus dark, plus ben c'est ça, plus dark. Je pense que je peux juste m'arrêter là, là.
Ouais, puis non, non, c'est ça. Je pense que ce qui est transparent de la bande-annonce aussi, c'est l'espèce d'enthousiasme et on sent que, je sais pas à quel point c'est vrai, là, parce que j'ai pas vraiment lu beaucoup sur le film, mais j'ai l'impression que Gareth Edwards est un fan de la franchise puis qu'il essaye vraiment de rendre justice un peu à l'icône qui est Godzilla, parce que pour nous un peu, j'ai l'impression qu'en Occident, tu sais, la franchise Godzilla, c'est quelque chose de très quétaine, là, tu sais, ce qu'on en retient, l'image qu'on a.
Mais les gens connaissent pas tant ça, en fait, en même temps, tu sais.
Oui, c'est ça. Puis juste, tu sais, dans le travail du son, le cri de Godzilla, en fait, sont vraiment allés chercher les mêmes bruitages originaux qu'ils ont retravaillés. Mais juste ça, je trouve, ça signifie vraiment qu'on essaye de, tu sais, de rendre hommage au film plutôt que de totalement se le réapproprier. Donc, j'ai hâte de voir. Puis vraiment, la bande-annonce, je trouve que c'est très solide. Évidemment, tu sais, faut pas nécessairement se fier à une bande-annonce pour juger la qualité d'un film. Que comme une très bonne couverture peut donner un livre très merdique, là. Mais j'ai bien hâte de voir. Il y a les premières critiques qui sont sorties. C'est assez positif pour l'instant. Donc, I want to believe,
Non, mais
là. J'ai hâte de voir.
avec le talent qu'il y a derrière, je veux dire, ça a tout le potentiel d'être un bon film.
Donc, réponse dans une semaine. Je vais probablement écrire un texte d'ailleurs pour point de vue. Alors, sinon, le gros morceau, ce sur quoi on voulait s'attaquer aujourd'hui, c'était le cinéaste américain Jim Jarmusch, figure phare du cinéma indépendant, qui sort ben, son dernier Honey Lovers Left Alive, prend l'affiche à Montréal, ben, a pris l'affiche il y a quelques semaines déjà, toujours à l'affiche avec Centris. Film qui a joué à Cannes d'ailleurs hein, en 2013. Ça c'est drôle, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que c'est le temps du festival de Cannes, ben les films qui ont pas encore été distribués, on dirait que c'est comme on doit se dépêcher à les sortir parce que là c'est comme les anciens films de Cannes. Là. Donc il y a le Coréda aussi qui a pris l'affiche il y a pas longtemps. Puis il y a aussi le Jeune et Jolie de François Ozon qui prend l'affiche dans 2 ou 3 semaines au cinéma Excentris. Qui avait joué l'année passée aussi. Donc, c'est ça, Jim Jarmusch qui a réalisé environ 10 de longs métrages, j'ai pas le compte exact, un documentaire aussi sur Neil Young and the Crazy Horse. Évidemment, documentaire musical, ça étonne pas beaucoup, hein. Jim Jarmusch, qui est vraiment, je pense, la musique, c'est ce qui ressort le plus de son travail principal, de son corpus filmique. Pour l'anecdote, en fait, je ne savais pas, j'ai appris ça aujourd'hui, qu'à la base, il souhaitait beaucoup être auteur et poète. C'était vraiment ça qui l'intéressait plus que le cinéma à la base. Donc, ça serait intéressant de voir est-ce qu'on sent l'apport littéraire dans son œuvre. Premier film en 80,
C'est
Permanent.
très intellectuel, en fait. C'est toujours très, très intellectuel, ces films. Même s'ils essaient de s'attaquer à du cinéma de genre, ce qui fait quand même souvent, c'est toujours apporté d'une façon vraiment art house. Tu sais, le très intellectuel, le très... Je dirais que c'est pas toujours concret, ces films, en fait, là.
Ouais, intéressant. Ben, intellectuel, ouais, on en discutera si ça l'est vraiment. Mais donc, du premier film en 80, Permanent Vacation, film qui est fait avec des bourses d'école d'à l'époque où il étudiait, notamment sous Nicolas Ray. Et un des premiers scénarios qu'il avait présenté à Nicolas Ray, et que ce dernier avait détesté, il lui avait dit, il n'y a pas assez d'action dans ton scénario, c'est pas très bon, retravaille. Et lorsqu'il présente une deuxième version, il a enlevé encore plus d'action, c'est encore plus contemplatif. Et le professeur a bien rigolé, il a dit, j'aime ton esprit d'indépendance, ça va te permettre de réussir. Donc voilà, alors je vais un peu lancer le sujet. Pour commencer, on va peut-être faire un petit tour de table et savoir quel fut votre premier contact avec Jim Jarmusch et si ce premier contact vous a un peu poussé à voir plus de ses films ou si au contraire ça vous a un peu rebuté. Alors toi, Olivier, peut-être si tu veux commencer, nous raconter un peu ce premier contact.
Mon premier contact avec Jarmusch, c'était Ghost Dog, avec Forest Whitaker.
Ah ouais.
Ouais. J'avais vraiment adoré ça à l'époque. C'est vraiment un espèce de mélange entre le cinéma d'arts martiaux, en fait, encore un film de genre, mais c'est un espèce de truc contemplatif, puis une comédie, mais c'est pas si drôle que ça. Mais, ben, par exemple, un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est que le personnage principal dans ce film-là va parler à un de ses amis, qu'on va jamais comprendre qu'est-ce qu'il dit. Mais eux, entre eux, ils se comprennent, puis c'est une espèce de gag récurrent, 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 mais il en fait jamais une grosse blague, puis c'est tout le film est un peu fait sur ce ton-là, qu'il y a tout le temps des gags, mais c'est jamais comme si c'était drôle, c'est jamais appuyé. Mais pourtant, il y a un humour omniprésent, puis ben, je trouve ça se retrouve dans plusieurs de ses films. Donc oui, j'avais beaucoup aimé quand j'avais vu ça la première fois, mais après j'ai vu Coffee and Cigarette, qui est son film à sketch, qu'il a fait avec plusieurs de ses amis, que j'ai absolument détesté. Donc,
Ah ouais. J'aime
voilà.
beaucoup Coffee Cigarette.
Bon, ben, en tout cas, ça m'avait vraiment rebuté, fait que j'ai comme eu une espèce de. Ça m'a comme calmé. Puis c'est vraiment plus tard que je recommence à voir de ces films. J'en ai pas vu tant non plus.
Et t'as vu son dernier,
Ouais,
là.
j'ai vu Only Lovers, j'ai vu le film avec Johnny Depp de le Western.
Deadman.
Ouais, puis Broken Flowers, que j'aime beaucoup.
Parfait, merci. Et toi, Rémi?
Je pense que les premiers que j'ai vus, ben, c'était justement Coffee and Cigarettes. J'ai vu Deadman aussi. Je pourrais pas dire dans quel ordre, c'est quel vraiment le premier que j'ai vu, là. Mais c'était, me semble que c'était ces deux-là, les premiers contacts que j'ai eus. Deadman, qui est d'après moi son meilleur, si j'oserais dire, dans ce que j'ai vu, là. J'ai pas tout vu, puis je me suis fait dire qu'un, c'est quoi donc son premier, un de ses premiers, là, c'est Stranger in Paradise. Paraît que c'est vraiment un chef-d'œuvre, comme ça se peut pas, là. Donc, il faudrait vraiment que je le voie, mais Deadman, c'est parce que c'est la twist du genre, mais justement, il s'en va dans vraiment un registre qui n'a jamais été exploré. Donc, c'est un western avec Johnny Depp qui est tourné en noir et blanc avec la musique de comment il s'appelle, non?
C'est-tu Neil Young ou
Non, non, non. Voyons, il joue dans ses films aussi des fois.
Tom Waits?
Tom Waits, exactement. Donc avec la musique de Tom Waits, de la guitare électrique avec la grosse distorsion, mais tu sais, c'est dans un western, un contexte de western, c'est très contemplatif, c'est vraiment l'homme de la ville qui se ramasse avec les Indiens, puis qui découvre un peu plus la culture des Indiens, qui commence à se rebeller contre la société moderne. Donc c'est un scénario quand même classique dans le cinéma de genre, dans le western, mais c'est tellement fait d'une façon différente, là, c'est très très surprenant comme film. Puis moi, au contraire, en fait, le Coffee and Cigarette, j'avais vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça rafraîchissant, vu que c'était justement des sketchs. Je pense pas que c'est super pertinent comme film, mais t'as toujours hâte, il me semble, de voir la prochaine vignette. Je pense pas que c'est comme... Je pense pas que c'est un film marquant ou que c'est justement... Mais c'est le fait que ça switch après 3-4 minutes, tu passes au prochain sketch, tu passes au prochain sketch. Juste le concept de la variété, c'est une espèce d'exercice de style. C'est des gens qui fument des cigarettes, qui boivent du café. C'est vraiment juste ça la base. Mais quelques sketchs dans ce film-là qui sont tellement drôles, là. Il y a les deux acteurs qui se retrouvent ensemble, puis il y en a un qui essaie de prouver à l'autre qui est son cousin éloigné, puis juste pour essayer d'avoir des rôles avec l'autre. C'est complètement absurde. Des sketchs, oui, il m'en Bill Murray qui travaille dans un café de nuit, mais qui joue Bill Murray, qui sort du café aux gens, puis les gens le reconnaissent, mais comme je veux pas me faire connaître ici, c'est complètement décalé comme univers. Mais j'ai vu des films de Jarmusch que j'ai vraiment pas aimé parce que je les ai trouvés justement trop art house. Ils essayaient trop d'aller dans l'art pour l'art, là, disons, sans penser à essayer de construire un bon film. J'avais vu The Limits of Control, qui était, moi, ça m'avait vraiment rebuté. Je l'ai écouté du début à la fin, là, mais vraiment de force, là, parce que je finis, tu sais, je suis pas capable d'arrêter un film en plein milieu, là, mais je me suis tellement emmerdé pendant ce film-là. Je trouvais que ça allait nulle part. Puis justement, c'était de over-intellectualiser le cinéma là, là-dedans. Puis pas penser à faire un film, mais plus à faire un espèce de statement intellectuel avec son film. Puis pour vrai, son statement, j'ai même pas pris le temps de le comprendre parce que ça me faisait trop chier d'écouter ça. Donc, Limits of Control, moi, ça m'a turné off. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu aussi Broken Flowers, qui est peut-être pas un des plus marquants, mais j'avais trouvé ça sympathique. C'était vraiment bien fait. Puis Bill Murray, je pense que c'est toujours un acteur qui est le fun à voir à l'écran en pleine action. Puis le dernier que j'ai vu dans sa filmographie, c'est A Night on Earth, qui est un film à sketch aussi, un peu comme Coffin Cigarettes, mais c'est des sketchs dans des taxis autour du monde. Donc tu t'en vas en Italie, tu t'en vas, il y en a un aux États-Unis sûrement, là, je me sais pas exactement toutes les places, mais c'est vraiment des sketchs, c'est très très humoristique, c'est vraiment bien fait. Très très rafraîchissant en fait comme film. Ouais, celui-là, j'avais bien aimé. Voilà, je pense que c'est pas mal ce que j'ai vu de Jim Jarmusch. Mais j'ai pas vu son nouveau, donc ça va être vous autres qui allez débattre parce que moi j'ai bien hâte de le voir, mais j'ai entendu les deux côtés de la médaille, disons, des gens qui ont adoré, des gens qui ont vraiment, vraiment détesté, là. Voilà, moi c'est mon c'est mon parcours de Jarmusch. À toi, Paul.
Ouais, ben c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut peut-être diviser un peu le public et la critique, quoique il y a quand même des très bonnes critiques la plupart du temps,
Ça
mais
reste toujours
les deux.
intéressant. Il y a toujours, même si, tu sais,
Ouais.
Limits of Control, ça m'a fait chier, puis genre, je réécouterai jamais ce film-là. Mais c'était, tu sais, je veux dire, c'est un film qui est vraiment intéressant dans un sens parce que c'est vraiment pas un film conventionnel, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. J'aurais peut-être aimé mieux pas le voir, mais c'est quand même différent, tu sais.
Et non seulement il va diviser le public en deux, il va diviser la même personne envers son
Ouais.
cinéma. Moi, j'aime certains de ses films, j'en déteste d'autres. Même chose pour Rémi, tu sais.
Ouais. Ben, moi aussi, j'ai l'impression que pour moi, je préfère certains de ses films, alors que d'autres me laissent complètement indifférent. J'irais pas jusqu'à dire que y a certains de ses films que je déteste, là. Pas du tout. Mais les deux, vous avez touché son humour particulier. En anglais, il y a une expression, c'est le offbeat humor. Je ne sais pas s'il y a un équivalent français, mais une espèce, c'est ça, un humour non conventionnel, disons, ou un peu absurde. Mais moi, ça me touche vraiment jamais son humour, même quand c'est censé être drôle. Comme par exemple, moi, son film Broken Flowers, c'est sûrement lui que j'aime le moins de Jarmusch. Je trouvais que c'était un peu un faux pas, peut-être.
Ben c'est comme moi, super drôle en fait. Puis il parlait beaucoup de deadpan en fait, là, qu'on fait de l'humour mais que le ton est neutre
Ben,
pendant
sans
qu'on fait
rire
la
un
blague.
peu, là.
Ouais, puis moi je trouve ça super, là, mais toi, ça te laisse indifférent.
Non, parce que.
On parlait de la musique aussi, mais moi, juste noter que Broken Flowers, c'est un des soundtracks que j'écoute le plus de tous les soundtracks de
Ouais.
films du monde, là. Ce soundtrack-là est écœurant. Il y a vraiment quelque chose de spécial là-dedans, là. En tout cas, c'était juste une petite note, un petit clin d'œil, là.
Ben, je pense que comme plusieurs cinéastes de sa génération aussi, l'importance de la trame sonore se fait sentir. Ben, pas nécessairement tant de cinéastes, mais tu sais, on peut le rapprocher de certaines personnes comme Wes Anderson ou Quentin Tarantino pour un peu l'éclectisme et la constance de la qualité de ses trames sonores, ce qui est vraiment dans tous ses films. Et puis aussi, des fois, c'est pas seulement comme comment je dirais ça, c'est pas seulement plein de hits un après l'autre, tu sais. Parce que lui, notamment, il est musicien, Jim Jarmusch, il a collaboré à plusieurs projets. Et notamment, en ce moment, il y a un projet rock qui s'appelle Squirrel, mais c'est écrit un peu bizarre, là, Squirrel. Et c'est, dans le fond, trois collaborateurs du film Limits of Control, dont Jim Jarmusch et deux autres personnes du film, qui ont décidé de commencer à faire un trio ensemble. Ils ont sorti quelques courts albums, quelques singles. Et ils comptent, c'est eux dans le fond qui font la majorité de la trame sonore de Only Lovers Left Alive. Puis ça, c'est intéressant parce qu'il y en a très peu, hein, des cinéastes musiciens qui font la trame sonore de leur propre film. On parlait notamment de Beasts of the Southern Wild, tu
Ouais.
sais, qui avait beaucoup marqué pour ça. Mais je trouve justement qu'il y a une symbiose entre l'image et la musique dans ces films qui est vraiment incomparable selon moi. Mais moi, c'est beaucoup plus, c'est ça, pour ses ambiances, pour sa musique, pour sa musique aussi à travers ses images qu'il me touche, que vraiment pour son humour ou pour son intellectualisme, parce que c'est un qualificatif que t'emploies, Rémi, que je suis pas sûr que je suis d'accord.
Pour
Parce que
vrai?
je trouve que ses films, au contraire, sont très accessibles et que c'est plus une ambiance qui va, une émotion qui on dirait qu'il tente de chercher plutôt que vraiment des films intellectuels,
C'est drôle, puis pour
selon
moi, en
moi.
fait, j'ai pas vu Only Lovers, mais je me suis fait dire qu'il y a beaucoup de plugs de noms d'auteurs, puis justement, il essayait de over-intellectualiser le film avec justement du plugage de noms. Là, ça, c'est une des critiques que j'ai reçues, je l'ai pas encore vu, fait que je peux pas. Mais moi, le film Limits of Control, je trouvais que c'était juste ça, en fait. Ça m'a.
Un autre film récent aussi qui faisait un peu un étalage de références socio-culturelles, historiques et littéraires, c'était Nymphomaniac. Et pour moi, c'est complètement l'opposé dans le ton et dans l'utilisation et la justification de ces référents-là. Dans Only Lovers Afterlife, en fait, pour moi, ben, on va en parler plus tard, là, mais c'est plutôt comme, parce que le film pose la grande question, que ferais-tu si tu étais immortel, finalement? Parce que c'est des vampires, hein? Spoilers, I guess, mais non. Bref, donc forcément, étant immortels, ils accumulent un certain bagage de connaissances, tu sais, qui va plus loin que le 5 quidam d'à côté, tu sais. Mais pour moi, ça me poche. Moi, je trouve vraiment pas que c'est prétentieux. Au contraire, moi, je pense que le cinéma de Jarmusch, fondamentalement, s'intéresse au quotidien, tu sais, à la banalité de la vie. Urbaine surtout, hein, parce qu'il travaille beaucoup dans les villes, dans les ruelles, dans les taxis, dans les cafés. Donc, pour moi, ça, c'est un cinéaste, quasiment un anthropologue un peu, qui s'intéresse à la vie mondaine, la vie quotidienne. Ces personnages aussi, c'est pas nécessairement des bourgeois, hein, c'est souvent des gens un peu des bons à rien, ou des flâneurs, des musiciens, un peu des
Okay.
bohèmes, peut-être, là. Donc, non, c'est ça, pour moi, c'est pas du tout un cinéma intellectuel, c'est quasiment une espèce de poète de la rue, là, tu sais. Jarmusch, pour moi, c'est comme une espèce de un joueur de jazz dans un petit café qui a comme 20 personnes qui sont là en fin de soirée au milieu de la nuit, puis pour moi, c'est ça son cinéma, c'est on s'embarque ou au contraire, tu sais, on n'embarque pas du tout, puis on se lève, puis on part de ce spectacle-là. Donc moi, pour revenir à la question initiale, mon premier contact, en fait, c'est un ami à moi, Jérôme, qui m'avait conseillé. Il me dit, il faut absolument que tu écoutes du Jim Jarmusch, tu sais, c'est une figure importante du cinéma américain. Et effectivement, tu sais, je crois que c'est un cinéaste très important, un peu, qui a éclos un peu dans les mêmes années que, mettons, un David Lynch ou un Spike Lee, avec qui il a étudié. Et pour moi, ces trois cinéastes qui ont vraiment comme une place forte dans le paysage américain des 30 dernières années. Bon, pour moi, Jarmusch, je le mets pas au même niveau qu'un David Lynch, par exemple, mais je trouve quand même que tu sais, c'est un cinéaste, un artiste vraiment qui a quelque chose à dire, qui a vraiment son propre style. Ça, je trouve qu'on se reconnaît dans le, tu sais, on sent qu'on est dans un univers cohérent. Donc j'en ai vu quelques-uns, il y en a que j'ai moins aimé que d'autres. Je pense que Stranger in Paradise, je l'ai vu, je l'ai vraiment pas tant aimé que ça. Pareil pour Down by Law, qui se concentre autour de trois personnages, notamment Roberto Benigni, qui joue dans plusieurs de ses films, et Tom Waits, encore une fois, qui s'en va en prison à un moment donné, puis qui. C'est une espèce de road movie existentiel. Celui-là m'avait moins touché. Mais Dead Man, pour moi, ça a été la claque, là. Je trouve que c'est un fabuleux film.
C'est un grand film, vraiment, là.
Ouais, vraiment un film marquant. Puis notamment, hein, tout dans la séquence d'introduction, dans le train, je trouve que Jarmusch, il est bon pour capter ces moments-là, en fait. Parce que je trouve que il filme le temps comme personne d'autre. Parce que tous ces films, dans le fond, c'est quoi ces personnages? C'est les personnages qui apprécient l'ennui, qui apprécient aussi le temps qu'on prend à avoir une conversation entre amis, par exemple, ou pourquoi est-ce que, tu sais, c'est quoi que d'attrayant dans le vinyle qui est omniprésent dans Only Lovers Left Alive, tu sais, c'est le temps qu'on le prend à l'installer, à le toucher, à mettre l'aiguille. je sais pas, il y a quelque chose de vraiment, ou le temps d'une cigarette ou d'un café, tu sais, il y a quelque chose vraiment dans qu'il faut se reposer. Et son cinéma dans sa forme même est quand même assez contemplatif, même si tu sais, il y a des exemples beaucoup plus extrêmes que ça. Mais tu sais, la pause ou juste le temps de marcher, c'est vraiment important dans ses films. Puis je trouve ça bien aussi, tu sais, de juste avoir cette ambiance-là, cette ambiance-là qui vient à nous. C'est vraiment pas agressif du tout son cinéma. C'est ça qui est le fun. En tout cas, je sais pas, il y a...
Limits of Control, c'était juste ça. C'était juste contempler des gens qui marchent puis qui se rencontrent, là, justement. Là. Je pense que c'est
Ben,
ça. C'est
celle-là, je l'ai pas vu, ouais.
du Jarmusch à l'extrême, justement. C'est exactement ce que tu dis, là. C'est vraiment, on prend le temps d'observer la petite vie, puis c'est pas trop ce qui se passe, là. Il y a des gens qui marchent puis qui se parlent, puis le personnage s'en va quelque part, mais on n'a pas trop de cue de où il s'en va pour vrai. Donc, c'est vraiment juste, on les regarde interagir, là. Ça, c'est du Jarmusch, je pense, poussé loin, là. C'est comme vraiment, ça te le met dans la face, là. En
Ouais.
tout cas.
Il y a aussi l'idée du cool aussi qui revient beaucoup dans son cinéma, tu sais, faire des choses juste parce que ça paraît bien ou tu sais, porter des lunettes fumées, s'habiller d'une certaine façon, avoir des attitudes ou une certaine position quand on s'assoit ou je sais pas, il y a quelque chose, tu sais, ces personnages, le rapport au cool et peut-être même au superficiel qui est intéressant. C'est comme aussi dans Stranger in Paradise, là, comme un des gros moteurs narratifs du film, c'est quelqu'un qui a perdu ses bottes qui valent comme 300 $ en je sais pas, en peau de crocodile ou peu importe. Puis c'est un peu ça qui mène la narration, mais c'est quand même intéressant comme prémisse, en fait. Comment un rien peut prendre une grande importance, dépendamment du temps qu'on lui accorde. Ouais, je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, s'il y a des idées qui vous ont touché dans ce que j'ai dit ou que vous êtes d'accord ou pas.
Ben, je suis pas nécessairement d'accord avec le fait que c'est pas un intellectuel, là, mais on peut construire sur Only Lovers Left Alive, puis on en parlera là-dessus.
D'accord. Donc, Honey Lovers Left Alive, c'est l'histoire finalement de vampire, hein? C'est le mythe du vampire revisité façon Jarmusch. Donc, plutôt que d'être bourré d'action et en guerre contre les loups-garous, ces vampires sont plutôt des êtres qui forcément recherchent l'anonymat, hein, parce que comme ils vivent des siècles, ils ne veulent pas trop se faire remarquer. C'est des personnages élégants qui aiment les choses antiques, qui doivent s'abreuver de sang, mais plutôt que de faire des victimes, ils préfèrent acheter du sang illicitement dans les hôpitaux. Et finalement, c'est ça, ces deux vampires qui s'envoient des messages par téléphone, qui vont se rejoindre, qui flânent tantôt à Détroit, ville qui se meurt, tantôt à Tanger, une espèce de métropole internationale à la croisée des langues un peu. Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de sa dernière proposition?
Ben, j'ai trouvé ça très bien, mais ça m'a pris du temps avant de rentrer dans son univers parce que je pense pendant un long moment, je reconnaissais beaucoup de ses tics. En fait, justement, le fait qu'il veut absolument que ses personnages soient cool, ça m'intéresse pas particulièrement. Puis au début, il prend beaucoup le temps de les montrer leur style, montrer la musique qu'ils aiment, qui me rejoint pas nécessairement tout le temps. Beaucoup, beaucoup du film va être des références à des artistes que lui-même aime, puis ça, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu parce que ça fait... Là, c'est littéralement du name dropping à un certain point. Par contre, de l'autre côté, la lenteur justement qu'il prend et les ambiances qu'il est capable de créer sont assez exceptionnelles à mon sens, justement, qu'il te rentre dans cet univers que t'es peut-être pas capable d'avoir dans une ville toi-même ou que tu prends le temps de faire une action, comme tu disais tout à l'heure, ça je suis parfaitement d'accord avec toi, de regarder les choses en fait. Ils vont se promener en voiture, ils vont regarder l'architecture des trucs, en parler, puis ça va être ça finalement. Le film, c'est 2 heures de deux personnes qui flânent pour la grande majorité du film, c'est ça. Puis je pense que la façon dont il crée ces ambiances assez subtilement autour de ça, ben c'est ça, j'ai trouvé ça réussi, ce qui a fait que quand j'ai passé par-dessus ces tics, ben j'ai vraiment apprécié le film.
Et aussi, il introduit peut-être en moitié de film un troisième personnage de vampire qui est comme la. Ben, C'est pas très clair, mais ce serait donc la petite sœur du personnage interprété par Tilda Swinton, qui elle est beaucoup plus énergique. Tu sais, elle vit à LA, et puis elle est un peu, c'est ça, l'image typique de l'adolescente
Ouais.
tannante, un peu, là.
Puis elle est rejetée avec beaucoup de mépris, en fait, ben, à partir du personnage principal.
Mais ça permet quand même d'apporter une nouvelle dynamique, puis on est un peu moins dans le contemplatif aussi quand elle arrive.
Mais t'as beaucoup l'impression, en tout cas, moi, je trouvais que le personnage interprété par Hiddleston, en fait, faisait beaucoup penser à Jarmusch, non seulement de la manière dont il agissait, mais dans ses discours. T'avais l'impression d'avoir les discours du réalisateur, et quand il méprisait ce personnage-là, ça me donnait l'impression que Jarmusch méprisait aussi ce personnage-là.
Donc, pour toi, il méprisait un peu la jeunesse qui est pas capable
Ben,
de prendre son
je
temps.
trouve c'est un film hyper misanthrope, c'est là-dessus que je suis pas d'accord avec toi, qui est pas intellectuel, en fait. Il arrête pas de dire que la race humaine est une race qui déteste ses créateurs, qui déteste la beauté, et qui est en fait une race qui vaut pas grand-chose au final.
Intéressant. Moi, au contraire, j'ai trouvé que le film, c'était plutôt. J'ai beaucoup apprécié le film. J'ai vraiment aimé ça. Et j'ai trouvé qu'en fait, c'était quasiment un film philosophique sur les vampires. Parce que c'était comme s'ils se demandaient. Dans le fond, ces vampires-là sont humains à peu de choses près, tu sais. La seule chose, c'est qu'ils sont immortels et qu'ils doivent vivre la nuit. Donc, qu'est-ce que ça apporte le rythme de nuit, le rythme nocturne par rapport au rythme normal? Évidemment, les rues sont plutôt désertes. C'est la culture underground, c'est des gens qui t'abordent et qui te proposent divers trucs au coin de la rue. C'est les virées nocturnes à Détroit où est-ce qu'il y a personne, que c'est un peu inquiétant avec les néons qui fait un peu mal aux yeux. Mais c'est aussi donc des personnes qui vivent des siècles et des siècles. Alors, qu'est-ce que ça ferait fondamentalement? Je pense que c'est normal d'avoir un certain mal de vivre. C'est ce que le personnage principal a. Il y a vraiment une espèce d'ennui profond. Il voit presque personne. Il se tient, tu sais, il est pas vraiment, il y a pas vraiment d'amis. À part peut-être un humain qui lui en fait servirait surtout pour aller faire des commissions spéciales, notamment lui apporter éventuellement des guitares. Ça, c'est quand même très drôle parce qu'il y a vraiment un fétichisme dans le film pour les instruments de musique qui porte à sourire plus qu'à rire. Mais je trouve que la passion est comme contagieuse. T'sais. Même si je suis pas nécessairement le plus grand mélomane, pas du tout en fait, mais il y a de quoi de le fun de voir t'sais, ces personnages. Discuter de tel instrument de musique qui date de 50 ans et puis de telle guitare qui est filmée comme la plus belle actrice qui est vraie. Donc, je sais pas, il y a de quoi de vraiment le fun dans ce fétichisme-là. Puis aussi dans la composition des plans aussi, c'est assez impressionnant. L'appartement du personnage principal, d'Adam, parce qu'évidemment, les vampires sont Adam et Ève. Mais, tu sais, son espèce d'appartement baroque où... il y a des fils partout, des consoles de son. Il y a toujours à quelque part un micro ou une bobine qui tourne, qui est après enregistrée ou après, je sais pas moi, une musique qui joue en arrière-plan. Donc, il y a quoi de le fun dans cette espèce de milieu clos parce que c'est vraiment presque une prison pour le personnage principal. Une prison dans laquelle il s'enferme volontiers. Mais non, moi, c'est plutôt ça. J'ai beaucoup aimé les idées derrière le film, en fait. Ça serait quoi les conséquences d'être éternel, en fait? C'est ça. Ça serait sûrement un mépris pour les gens qui meurent au bout à peine une centaine d'années, tu sais. Ces personnages, d'ailleurs, qu'eux, ils nomment des zombies. Pour eux, les humains sont des zombies. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et malgré tout, tu sais, ils ont des iPhones. Ils ont des téléphones, ces vampires, donc ils s'en servent, mais ils sont pas nécessairement. Leur but, c'est pas nécessairement d'avoir des jeux et de, tu sais, d'avoir Facebook et d'aller avoir des notifications. T'sais, pour eux, c'est vraiment un outil de communication à la base. Donc, non, j'ai bien aimé ça. Et puis, vraiment, tu sais, la direction photo est très bonne. Et j'aime aussi que la caméra est active, hein. L'espèce de séquence d'ouverture où on commence donc sur un ciel étoilé avec le générique du film, mais le ciel étoilé, il y a comme une espèce de lente rotation qui s'effectue sur l'écran, Donc, ça donne une espèce de vertige parce que les titres, les noms du générique sont stables. Donc, tu sais, c'est un espèce d'effet d'optique qui se crée un espèce de déséquilibre au début pour le spectateur. Et ensuite, il y a comme une coupe vers un vinyle, évidemment, qui tourne. Et ensuite, vers chaque personnage qui est comme...
Avec la même rotation.
Ouais, avec la même rotation. Donc, il y a tout un effet, justement, au début de montage sur la rotation qui est vraiment aussi intéressant au niveau purement formel. J'ai trouvé ça le fun. Et les différentes aussi balades en slow motion ou tu sais, c'est seulement un peu plus lent de voir Tilda Swinton avec cette espèce de coupe de cheveux assez étrange, les cheveux bleachés et ses lunettes fumées, tu sais, qui marchent dans les ruelles de Tanger. Mais non, j'ai vraiment aimé ça. Puis toi, tu parlais de tic, Olivier. Moi, ça m'a pas nécessairement déplu. C'est vrai que bon, le name dropping, je suis un peu d'accord. Notamment, il y a une scène où ils vont s'arrêter devant la maison natale, la
De
maison
Jack.
d'enfance de Jack White. Ça apporte pas grand-chose au film, mais en même
Non,
temps, bon.
je tiens à dire, son amour pour ces auteurs-là, en fait, ou pour ces peintres, ou pour ces musiciens-là, parce qu'il va dans tous les sens, littéralement, je pense que c'est quand même contagieux jusqu'à un certain point. C'est juste que, justement, Jack White, c'est un de ses amis, puis ça devient presque par défaut qu'il fait ça, puis c'est là que ça m'agace un peu, en fait.
Mais là où peut-être c'est vrai, ça peut être agaçant, il y a une scène où justement les deux personnages voient dans un petit café une femme, en fait une chanteuse qui s'appelle Yasmine, qui interprète un morceau. Et là vraiment le film s'arrête et on écoute son morceau. Ça m'a beaucoup rappelé en fait le moment à l'opéra le morceau de Silencio dans Mulholland Drive, où on prend vraiment le temps de s'arrêter et de voir cette femme-là exécuter son morceau.
Elle est belle, cette scène.
Ah, c'est une
Hein?
superbe scène.
T'as pas aimé, toi?
Non, non, moi j'ai adoré cette scène-là. Je trouvais vraiment que... Ouais.
Puis je pense que ça démontre le talent du réalisateur parce que moi, qui à la base, au début, pour les 20-30 premières minutes, étais agacé par tout son univers, ben, il m'y a fait adhérer à la fin.
Ouais. Et aussi, j'ai beaucoup aimé l'interprétation des personnages parce que Tilda Swinton, on s'entend que c'est une des meilleures actrices au monde, là, je pense, là. Et puis, je sais pas, juste sa manière de saluer les gens, sa manière de regarder quelqu'un, ou d'être dans sa position de son corps, hein, lorsqu'elle est couchée ou évachée sur un divan à moitié sur Tom Hiddleston. Je sais pas, elle a une présence physique et un charisme à l'écran, une ciné-génie, une photogénie qui est vraiment incroyable. Puis pourtant, c'est pas une femme que je trouve nécessairement jolie, mais c'est tout ce qu'elle fait avec l'écran, je sais pas,
Ben, elle a toujours une étrange beauté, en fait, là. C'est un peu
Ouais.
décalé, ça a une beauté vraiment décalée.
C'est ça,
Ça
elle a
marche avec le
comme.
personnage, là.
Mais je trouve qu'elle a comme un contrôle de la caméra, comme pouvait l'avoir, mettons, une Marlène Dietrich à l'époque, ou. Tu sais, elle a une présence à l'écran qui est forte, là. Puis souvent, c'est ça, elle va jouer des seconds rôles, puis à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, j'ai l'impression qu'elle commande de l'action. Et sinon, la jeune aussi dans le film, Mia, en tout cas, la fille qui jouait dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, j'aimais aussi son jeu parce que, bon, elle joue un peu le rôle de la petite sœur agaçante, tu sais, qui essaie d'être cute quand même, mais qui tape sur les nerfs de tout le monde. Donc, le contraste entre elle et puis le couple qui est beaucoup plus zen et nonchalant, c'est très bien.
Ouais.
Ouais, non, c'est un film, je pense, qui est le fun à voir en salle aussi parce que c'est un mood. Puis, tu sais, ce genre de film-là, un peu contemplatif, ça s'apprécie vraiment ou chez soi, mais tu sais, il faut vraiment prendre le temps de se poser et se dire, je vais accorder toute mon attention au film, je ferme les lumières, tu sais, je monte le son et puis... Je suis dans ce film-là parce que c'est beaucoup plus des expériences que... Tu sais, au final, est-ce qu'il y a vraiment un seul scénario de Jim Jarmusch qui vaut la peine ou, tu sais, qui frappe? C'est pas du tout dans son scénario, c'est dans son écriture, c'est sa mise en scène, finalement. Et c'est assez ironique pour quelqu'un qui vit à la base souhaite être auteur. Parce que j'ai l'impression que... Et c'est tout à son honneur, en fait, c'est qu'il n'est pas resté dans une optique littéraire, mais vraiment son cinéma s'écrit à coup de plans et de choix de mise en scène.
Bah, son cinéma a peu d'événements en fait, donc c'est pas un cinéma qui bouge, puis généralement quand on nous apprend à scénariser, c'est qu'il y a tout le temps des actions en fait. Fait que son écriture est complètement anti-cinématographique à la base, parce que c'est juste des gens qui parlent. Sauf qu'on peut voir comment ça pourrait être une écriture littéraire, je
Ouais.
trouve.
Même ses dialogues, c'est pas nécessairement des grands dialogues. Je veux dire, y a pas des.
Non, 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 non.
C'est ça, c'est l'art du quotidien. Puis, ouais. Donc, pour toi, Only Lovers Left Alive, c'était quand même très positif.
Ouais, j'en suis ressorti très avec une opinion très positive.
Donc, ouais. Et puis, dans sa filmographie, tu te classes où? Est-ce que pour toi, c'est comme son meilleur ou c'est dans sa moyenne ou.
C'est pas Dead Man, puis moi j'ai une affection particulière pour Broken Flowers. Je le mettrai après, mais je pense que c'est un de ses plus accessibles, si je peux dire.
Ouais.
Je pense que c'est un film que je recommanderais facilement, alors que je ne recommanderais pas nécessairement facilement ces autres films que j'ai vus.
Encore qu'il y ait le piège de quelqu'un qui loue ça pensant que c'est seulement un film de vampire, tu sais, avec le gars des Avengers.
Non, non, c'est sûr. Mais je pense que voilà, par son talent de metteur en scène, l'ambiance fonctionne sans que tu aies besoin de l'intellectualiser, en fait. Et ça, je trouve que ça peut marcher pour n'importe quel public tant qu'il ne s'attend pas à voir un gros film d'action, effectivement.
Ouais, et puis moi aussi je pense que Dead Man ça reste peut-être le film qui va définir Jim Jarmusch pour encore bien longtemps hein, probablement. Mais encore un très 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 bon film à voir en ce moment à l'Excentris. Et puis voilà, moi je pense que ça un autre gros film à sa filmographie qui est quand même il y avait quelques films qu'on aimait moins dans sa filmographie, mais vraiment, moi, je pense que ce que je souligne encore une fois, c'est sa constance et sa cohérence. Tu sais. Ça fait 30 ans, là, à travers une dizaine de films qui nous proposent une vision singulière et jamais compromise. Donc, ça, chapeau, franchement, là. Et puis, toi, Rémi, à nous entendre parler, est-ce que ça donne le goût d'aller voir le film?
Ben oui, puis moi en fait j'avais le goût avant même de vous entendre parler. Je trouve qu'il y a toujours de quoi d'intéressant. Comme je dis même, non non, mais pour vrai vous faites juste appuyer ce que je pense qui va être cool dans ce film-là. Puis tu sais comme j'ai dit, Limits of Control, j'ai vraiment pas aimé ça, mais en même temps, tu sais, je pense qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant dans son cinéma, quelque chose qui est très unique à lui. Fait que je pense que ses films valent pas mal la peine d'être vus.
Mais selon moi, corrige-moi, mais je pense que le grand problème de Limits of Control par rapport à ses autres films, c'est qu'il se centrait sur un personnage.
Ben, c'est un personnage, ouais, qui rencontre beaucoup de gens, en fait. C'est juste des
Ouais.
rencontres, le film.
Mais alors que tous ces autres films, finalement, peut-être Broken Flowers, là, et un peu aussi ce modèle-là, mais je trouve que sa force aussi, c'est d'avoir des petits groupes de personnages qui vont un peu se répondre l'un l'autre. Donc, il me semble qu'il est plus à l'aise avec, c'est ça, des petits groupes comme, ben c'est ça, comme un espèce de groupe de musique finalement, ou tu sais, un groupe de jazz où chacun va un peu attendre l'autre, laisser le temps à quelqu'un d'interpréter quelque chose avant de répondre. Donc, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise là-dessus que des personnages, des portraits d'un seul personnage. Mais bref, j'ai pas encore vu Limits of Control, donc on verra bien. Peut-être que pour moi, ce sera la révélation. Mais voilà, ça fait le tour, hein. Donc merci beaucoup Olivier Bouchard d'avoir été des nôtres.
Merci.
Notamment pour ceux qui ne le savent pas, peux-tu nous rappeler un peu pour quel site tu écris et où on peut te lire?
J'ai écrit pour les fiches du cinéma, j'écris encore pour Cinématraque et Cinéphilique. On peut me lire là, puis j'écris aussi pour Point de vue occasionnellement.
Merci beaucoup. Donc voilà, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot et j'étais avec mon collègue
Rémi Fréchette.
Nous allons nous quitter sur la bande-annonce du règne de la beauté de Denis Arcand.
Fais-tu de l'infection? As-tu des écoulements?
Ouais, peut-être un peu, ouais.
On va regarder ça.
Tu vas me faire bander.
Ah, t'es fatigant.
Dis donc, Isa.
Oh mon Dieu, excusez-moi.
Est-ce que aujourd'hui, avec Internet, tout le monde va réussir à trouver l'âme sœur à coup sûr?
Nous, on travaillait toutes les deux dans le même hôpital, l'Enfant Jésus à Québec.
Vous faites partie de la même équipe de tennis à l'université.
Tu frappes toujours aussi bien la balle, hein, mon grand garçon.
Ah ouais? Ouais. C'est ma jolie fille.
like you to spend the night with me.
Quand je suis allé à Toronto, j'ai eu une histoire avec une fille.
C'est normal.
Si tu m'abandonnais, je peux te tuer.
Tu sais bien que je te jouerais de là.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous vous connaissez?
Oui. Il va falloir que tu me parles de ça.
T'as peut-être pas le tempérament pour être un donjon.
Coupable.
Elle s'en sortira pas toute seule.
Je sens que tu m'échappes. T'as tellement d'étoiles dans le ciel.
L'amour, c'est pas assez. Ça arrive une fois dans une vie, une chance comme celle-là.